Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, quand votre employeur veut votre bonheur au travail. 1833 n'importe quoi. 3R Valorisation collectionne les factures impayées. Et 3 femmes, 3 générations, 3 avortements. Bonne écoute.
Quand votre employeur veut votre bonheur au travail. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 25 avril 2023 dans Le Devoir. Les responsables des ressources humaines tentent de nourrir l'engagement des travailleurs en retissant des liens entre eux et avec l'entreprise. Avez-vous remarqué que votre employeur vous propose de nouveaux services de consultation psychologique? Qu'il vous offre un horaire plus flexible? Que les équipes de ressources humaines vous consultent pour connaître vos valeurs et vos attentes? Bref, vos patrons redoublent-ils d'efforts pour favoriser votre bonheur au travail? Si c'est le cas, sachez qu'ils sont loin d'être les seuls. Selon le réseau de collaboration en santé mentale, bien-être et qualité de vie au travail Global Watch, qui regroupe d'importants employeurs de la France, du Canada et de la Belgique. Ces derniers sont de plus en plus obligés de s'attarder à ces questions si l'on se fie à la présidente et fondatrice de l'organisme, puisque les travailleurs tombent au combat plus que pendant la pandémie. L'élément déclencheur pour les entreprises, c'est la perte de productivité, les absences pour cause de santé mentale, la baisse du niveau d'engagement et la difficulté à retenir les employés, explique Marie-Claude Pelletier. Lors d'un webinaire, son équipe a présenté 6 questions qui préoccupent de plus en plus les employeurs. Elles ont été mises au jour au moyen d'une vaste veille médiatique et de consultations avec des experts universitaires et des employeurs adhérents. En voici un petit résumé. Santé mentale et fatigue. Quand on regarde la guerre en Ukraine, l'inflation, l'instabilité économique, les questions climatiques, tout l'héritage de la pandémie en matière d'anxiété, ça fait en sorte que, quand on arrive au travail, on a déjà été exposé à des risques pour la santé mentale, observe Mme Pelletier. Les équipes de direction sont plus sensibilisées. On voit de plus en plus de mesures comme des formations sur les signaux de détresse psychologique, des programmes d'ambassadeurs ou de sentinelles bénévoles et du coaching de gestionnaires à ce sujet. La santé mentale des cadres et des chefs d'entreprise est aussi à l'ordre du jour. Ces derniers ont dû gérer des crises, de l'instabilité et la perturbation des chaînes d'approvisionnement, en plus de composer dans certains cas avec les risques financiers. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on est seul, dit Mme Pelletier. Ils ont souvent des rôles sandwich, qui ne sont pas faciles. Sens et engagement. C'est l'ère des démissions silencieuses et des grandes remises en question auxquelles la diminution des liens sociaux en télétravail n'est pas étrangère. Le fonctionnement des entreprises est déstabilisé par un haut taux de roulement. Les responsables des ressources humaines tentent de nourrir l'engagement des travailleurs en retissant des liens entre eux et avec l'entreprise. On fait un effort dans l'organisation d'activités sociales. On redéfinit les tâches pour qu'elles collent aux aspirations de chaque employé. Flexibilité et adaptation. Les employeurs sont de plus en plus conciliants en ce qui a trait à l'horaire et au lieu de travail. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ils veulent retenir les personnes âgées, les parents et les jeunes épris de voyage. On voit émerger des services pour faciliter la vie des travailleurs, comme de la restauration et de l'animation, des garderies, des congés menstruels. La semaine de 4 jours fait l'objet de plusieurs expériences concluantes. Diversité, équité et inclusion. Les stratégies de diversité s'élargissent pour inclure non seulement le genre et la culture, mais aussi l'orientation sexuelle, la religion, la neurodiversité, les handicaps. Un travail de fond est effectué pour éviter la discrimination en plus d'accueillir et de valoriser divers profils de travailleurs. Violence, harcèlement et incivilité. Il est plus facile de détester ceux qu'on ne voit pas régulièrement en personne. Les liens sociaux préviennent les conflits, le harcèlement et les incivilités. Ainsi, le télétravail a fait en sorte que les incidents se multiplient, selon Mme Pelletier. Les entreprises établissent des politiques et outillent les gestionnaires et les employés afin qu'ils gèrent mieux ces situations. Environnement. L'éco-anxiété peut influer sur le bien-être des travailleurs. Conscientisés, ils ont de plus en plus à cœur que leur employeur adopte des mesures concrètes pour réduire ses impacts environnementaux. On voit notamment la mise en place de comités d'employés visant à verdir l'entreprise. C'était « Quand votre employeur veut votre bonheur au travail », un texte de Roxane Liouzon, paru le 25 avril 2023 dans Le Devoir.
N'importe quoi. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 avril 2023 dans la presse. Personne ne répond à la ligne téléphonique mise en place par le ministère de l'Éducation pour qui voudrait dénoncer une situation de violence sexuelle dans une école. Au lieu d'une oreille bienveillante, une jeune victime qui prend son courage à deux mains pour dénoncer son agresseur a droit à la chaleur d'une boîte vocale. Au lieu de la confidentialité promise et attendue, on lui demande de laisser son nom et son numéro de téléphone. Après le bip, parlez-nous de votre agression. On vous rappelle. J'étais stupéfaite en lisant l'article de ma collègue Marie-Ève Moras sur la ligne 1833 dénonce, annoncé en grande pompe par le ministre de l'Éducation Bernard Drainville, qui se disait préoccupé par la multiplication des cas de violence sexuelle rapportés dans le réseau de l'éducation. En plus de lancer une enquête de « portée générale », dont la portée réelle demeure encore nébuleuse, annoncée le 21 mars dernier, le ministre a dit vouloir implanter une telle ligne parce qu'il était important que les élèves victimes de violences sexuelles puissent rapporter ces situations confidentiellement et en toute sécurité. La santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire sont mes priorités et je ne ferai aucun compromis là-dessus, déclarait-il. Aucun compromis. Sauf peut-être celui de la rigueur qui commande de minimalement consulter ceux qui travaillent à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et qui aurait peut-être pu donner deux ou trois conseils pertinents avant de lancer une ligne 1833 n'importe quoi. Dès son lancement, la ligne 1833 dénonce était déjà critiquée par des élèves et des intervenants. « Ce n'est pas du tout ce qu'on a demandé », a déploré en entrevue à Radio-Canada Alexandra Dupuis, co-coordonnatrice du collectif « La voix des jeunes compte », un regroupement d'élèves qui, dans la foulée de hashtag « Moi aussi », dénonce depuis plus de 5 ans les protocoles inadaptés et le manque de ressources appropriées pour lutter contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Si toute ressource additionnelle est la bienvenue, encore faut-il qu'elle ne dédouble pas en moins bien ce qui existe déjà, a averti pour sa part Monique Villeneuve, directrice générale du Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles, dans ce même reportage diffusé le 12 avril dernier. Devant ces critiques, le ministère de l'Éducation aurait pu d'emblée rectifier le tir pour s'assurer que sa stratégie, aussi bien intentionnée soit-elle, ne rate pas sa cible. Mais non. Après avoir pris connaissance de l'article de Marie-Ève Maurras, je me suis dit qu'à la première heure vendredi, le ministre Drainville allait saisir au bon cette deuxième chance de rectifier le tir en veillant à ce qu'il y ait au moins un être humain plutôt qu'une boîte vocale au bout du fil. Mais non. Lorsque j'ai appelé au 1-833-DÉNONCE vendredi, le 20 avril, il n'y avait toujours personne. J'ai envoyé un texto à l'attaché de presse du ministre pour savoir quelle suite il allait donner à ce qui était rapporté par ma collègue. J'ai eu droit à la même réponse que lorsque j'ai voulu, le mois dernier, poser des questions à M. Drainville sur les écoles vétustes, soudainement pas si vétustes. Aucune réponse. À ma collègue, Marie-Ève, l'attaché de presse a répondu que le ministre juge « inacceptable » que la ligne téléphonique renvoie systématiquement à une boîte vocale. Des correctifs seront apportés. Il reste à espérer que ces correctifs ne soient pas faits en vase clos, mais en tenant compte de l'expertise des organismes spécialisés dans la lutte contre les violences sexuelles et l'intervention auprès des jeunes. C'est vraiment triste de ne pas prendre davantage en considération les victimes et d'offrir une réponse aussi simpliste à un problème social si complexe, me dit la directrice du Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles. Si le ministre Drainville avait pris la peine de la consulter, Mme Villeneuve lui aurait dit d'emblée ce que bon nombre de parents savent déjà. Les jeunes n'appellent pas. Il texte. Je suis maman et grand-maman. Mes petits-enfants ne m'appellent pas. Ils m'envoient des textos. Si un ado n'appelle même pas sa grand-mère, la probabilité qu'il appelle une boîte vocale impersonnelle du ministère de l'Éducation pour dénoncer une agression est, comment dire, plutôt faible. Au Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles, on s'est adapté en conséquence. Depuis l'automne, on a un cellulaire. Notre intervenante jeunesse reçoit des textos des ados. Chez tel jeune, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Il y a des lignes 24/7 qui ne sonnent plus depuis des années. La ligne téléphonique fonctionne encore, mais il y a longtemps qu'on est passé aux textos et au clavardage parce que les ados sont ailleurs. Tant qu'à investir dans des ressources, choisissons les bonnes, plaide Mme Villeneuve. Au lieu d'investir dans une ligne téléphonique alors qu'il existe déjà des lignes 24/7, on pourrait par exemple s'assurer d'avoir assez d'intervenants sur le terrain. Juste sur le territoire de Laval que dessert notre organisme, je n'ai pas assez de personnel pour couvrir toutes les écoles. J'aimerais ça qu'il m'appelle, M. Drainville. J'ai plein de choses à lui dire. Par téléphone ou par texto, peu importe, pour autant qu'elle ne tombe pas sur une boîte vocale. C'était 1-833 n'importe quoi, un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 avril 2023 dans la presse.
Valorisation collectionne les factures impayées, un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. 3R Valorisation, qui envisage actuellement de vendre ses actifs, collectionne les factures impayées, a découvert Le Devoir en épluchant des actes notariés publics. Parmi les nombreux créanciers, on trouve la Ville de Montréal-Est, qui a déposé en septembre dernier un avis de vente pour taxes foncières impayées pour l'année 2021. Cet automne, Revenu Québec a, pour sa part, inscrit une hypothèque légale pour une somme impayée de 519 000 $. Idem pour la Banque de développement du Canada, qui a réclamé des sommes impayées atteignant 76 000 $. Ajoutons à cela que la Banque Laurentienne a cédé en décembre 2020 une créance hypothécaire de 3R valorisation de plus de 760 000 $ à l'homme d'affaires Lior Azérad. Aujourd'hui conseiller municipal à la ville de Côte-Saint-Luc, M. Azérad est alors devenu titulaire d'une hypothèque de plus d'un million de $ portant un taux d'intérêt annuel de 12 %. Au devoir, M. Azérad concède avoir envisagé de s'impliquer dans l'entreprise, mais j'ai décidé de juste prêter, et là maintenant, je ne suis que créancier. Questionné sur les dettes et les manquements environnementaux répétés de l'entreprise, il répond « C'est justement ça. J'essaie de protéger ma créance et sortir. » Ellipse. « J'essaie de régler ça le plus vite possible. » Tout comme l'avocat de 3R Valorisation, maître Carl-Emmanuel Harrison, lui aussi confirme les démarches de l'entreprise pour se départir de ses actifs. C'était 3R Valorisation collectionne les factures impayées, un texte de Ulysse Bergeron et Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Trois femmes, trois générations, trois avortements. Un texte de Sylvia Galipo, paru le 5 mars 2023 dans La Presse. L'affaire Chantal Daigle a relancé le débat sur le droit à l'avortement au pays il y a 34 ans. Un sujet encore tabou aujourd'hui, clivant par moments, dont peu de femmes se vantent. Pour ne plus le taire et toujours le défendre, trois femmes se racontent. Nos mères n'ont pas eu le choix. Marie Gray, 59 ans. Nous sommes en 1988, l'année de la décriminalisation de l'avortement. Marie Gray a 25 ans. Elle chante dans un groupe, a une voix du tonnerre et la vie devant elle. À l'époque, l'autrice, que l'on connaît, entre autres, pour ses histoires à faire rougir, n'écrit pas encore. Elle est plutôt rockeuse et pas prête du tout à être maman. On n'était pas prêts, on était des tripeux, pas du tout responsables, encore des enfants. Elle tombe enceinte, bien malgré elle, et en dépit de son moyen de contraception du moment. Parce qu'il n'y a pas un seul moyen de contraception qui soit efficace à 100%, apprend-elle à ses dépens. À preuve, 2 ans plus tard, rebelote. Sauf qu'heureusement pour elle, et contrairement à Chantal Daigle, ça n'a jamais été un enjeu pour ses conjoints. On n'était pas prêts. Je savais que je voulais des enfants un jour, mais pas là, dit Marie Gray. D'ailleurs, dans ma tête, je ne pensais pas à l'aspect légal. Pour moi, ça allait de soi. Elle avait le choix. Sa mère, très présente, lui apporte tout le soutien du monde et lui confirme « C'est ton choix seulement. » Je me souviens que l'affaire Chantal Daigle a été le premier événement porté par une fille de ma génération qui me faisait réaliser l'importance et le courage de ces femmes qui ont mené des combats pour obtenir ce que je tenais pour acquis, poursuit-elle. Ce n'étaient plus des histoires de ma mère, mais d'une fille de mon âge que je trouvais forte et admirable. Marie Gray se félicite qu'on aborde ici le sujet. C'est tellement important d'en parler. J'ai peur. C'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis, ce retour de la droite religieuse. On a beau dire qu'ici ça n'arrivera pas, il ne faut rien tenir pour acquis. Conclut la mère de deux grands-enfants, à qui l'on doit aussi un roman jeunesse sur le sujet, « Le vertige de Gabriel » chez Guy Saint-Jean. Il est important de décomplexer ce sujet-là. Marie-Ève Milo, 39 ans. Elle avait 23 ans et sa carrière en théâtre commençait à peine. Elle prenait la pilule et est tombée enceinte quand même. « Oui, c'est un choc », confirme la metteuse en scène et co-directrice artistique du Théâtre de l'Affamée. Ce qui m'a fascinée, c'est que quand je l'ai dit à mon entourage, automatiquement, c'était lié à une bonne nouvelle. Comme si le « par défaut » n'était pas l'avortement. Une réaction sous forme de pression, confirme la co-autrice de « Clandestine », une pièce inspirée de l'histoire de l'avortement au Québec, présentée en février 2023 au théâtre d'aujourd'hui. Parlant de clandestinité, « Ma mère a subi un avortement clandestin », enchaîne-t-elle. « Ma mère n'était pas maîtresse de son utérus. Or, dans l'illégalité et la clandestinité, tu t'exposes à tellement de choses. » Quant à elle, Marie-Ève Milo savait très bien qu'elle n'en voulait pas, et son copain de l'époque non plus. Ce n'était désiré ni pour lui ni pour moi. Mais je vais quand même le dire, il n'était pas là, se souvient Marie-Ève Milo. Oui, ça l'a déçue. Elle s'est rendue au Centre des femmes et a vécu son avortement entre femmes de tous âges au parcours diversifié. Et ça déboulonnait plein de mythes, se souvient-elle. Et ce n'est pas lié à un traumatisme. Je suis reconnaissante d'avoir eu accès à ça et de cette manière. Mais l'actualité lui fait peur. Terriblement, insiste-t-elle. Et c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. On a tendance à tenir nos droits pour acquis. Mais contrôler le corps des femmes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il est important de décomplexer ce sujet-là. D'autant plus avec ce qui se passe aux États-Unis, de l'exposer pour que d'autres femmes puissent s'identifier, de montrer la liberté de choix parce qu'elle doit être préservée. C'est un droit, une question de dignité et d'intégrité physique. Dans ma tête, c'était illégal partout. Maria Bejarano, 28 ans. La jeune femme, originaire de Colombie, est arrivée au Québec à l'âge de 17 ans. À l'époque, il y a 10 ans, elle ne parle pas un mot de français. Et dans mon pays, l'avortement n'était pas légal. Cela a pris beaucoup de luttes féministes, dit-elle. On n'avait pas beaucoup d'éducation à la sexualité non plus. Elle ne sait pas ce qu'est une relation saine, une relation intime. Je ne sais même pas c'est quoi l'amour. Toujours est-il qu'elle rencontre rapidement un garçon de son âge. Elle ne prend pas de moyens de contraception parce qu'elle ne sait pas trop à qui s'adresser et qu'aucun intervenant ne parle non plus l'espagnol. Et je suis beaucoup trop gênée pour demander à mon père. Quand elle prend conscience de son état, c'est la panique. Ma vie est finie. Énorme, infini soulagement, quand son petit ami d'alors lui révèle qu'elle peut mettre un terme à sa grossesse et que l'avortement ici, c'est légal, sécuritaire et accessible. C'est légal ici? Dans ma tête, c'était illégal partout, se souvient Maria Bejarano. Oui, c'est un soulagement, dit la jeune militante féministe. « Moi, je suis pour, depuis que j'ai une conscience des inégalités sociales et de la pauvreté. Ce n'est pas tout le monde qui doit amener un enfant au monde. Son petit ami fait les appels, prend le rendez-vous et l'accompagne à la clinique. Il faisait la traduction pour moi, se souvient-elle. Non, elle ne le dit pas à sa famille. Peut-être qu'il se serait opposé, dit-elle. En Amérique latine, les parents vont toujours faire pression. Mais c'est notre décision. Même pas. C'est ma décision. Quelques années plus tard, plus établie dans la vie et avec un autre petit ami, Maria a finalement fondé une famille. Là, c'est très différent. J'ai une stabilité émotionnelle. Je suis prête, dit-elle. Mais si tu n'as pas les outils sociaux, économiques et émotionnels pour prendre en charge un enfant, tu ne dois pas être maman. Aujourd'hui, elle souhaite à sa fille la liberté de choisir comme elle. Et qu'elle ait confiance en moi si un jour elle tombe enceinte, parce que je suis une maman féministe et je vais toujours la soutenir. À noter que la Colombie a finalement dépénalisé l'avortement en 2022. C'était trois femmes, trois générations, trois avortements, un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Robert Chartier, Lynn Lamarche et Claire Dorion à la lecture, Daniel Veillette et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.